Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 16 avril, toujours pas de traces de la petite Mia enlevée il y a 3 jours, ni de sa mère. Le procureur de la République d'Épinal n'exclut pas un départ à l'étranger. 4 hommes sont désormais en garde à vue, dont les 3 ravisseurs présumés qui seraient des survivalistes. Nous verrons ce que recouvre cette mouvance. Cette 3e vague est loin d'être terminée, a reconnu ce matin Jean Castex. Les chiffres montrent une stagnation timide. On n'a pas encore atteint le pic sanitaire. Une 3e dose de Pfizer, c'est ce que recommande le PDG du géant pharmaceutique américain. Pourquoi le vaccin est-il adapté aux variants? Quelle est sa durée d'efficacité? Autant de questions que nous poserons à notre invité, le docteur Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Rebondissement dans la polémique sur la construction de la mosquée de Strasbourg. Finalement, l'association Miligorus, proche de l'État turc, renonce à demander une subvention de 2,5 millions d'euros à la mairie. Enfin, le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, où des élèves donne une mission à Thomas Pesquet lorsqu'il sera dans l'espace. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Ça tourne à l'orage dans le sud-est?
Oui, c'est vrai, on a déjà quelques orages entre le Var et les Alpes du Sud à l'heure qu'il est. Sur les hauteurs, c'est très très vite de la neige, hein, vu l'état des températures. Et cette ambiance orageuse va persister dans le sud-est tout au long de l'après-midi, avec de la neige sur les hauteurs des 800 mètres, des orages en bas. Ailleurs, on devrait bien s'en sortir. Alors, on a un beau soleil pour le moment, mais il y a un petit peu de grisaille dans le nord-est. Et cette grisaille devrait peu à peu gagner l'Île-de-France ou encore les régions centrales. Mais sans dégradation. Côté température, ça caille toujours. 11 degrés à Lille et à Besançon cet après-midi, 12 à Nevers et Paris, 13 à Rennes, 15 à Agen et Toulouse et 16 degrés maximum à Marseille.
La question du jour sur RTL.fr. Croyez-vous à une réouverture progressive à partir de mi-mai? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour, ce sera effectivement une question intéressante. Autre sujet, après la polémique sur les avions, un élu Europe Écologie Les Verts estime qu'un club de bateaux à voile pollue. Vous avez peut-être entendu la chronique ce matin de Cyprien Sini, c'est le conseiller municipal de Vincennes, on en parlera tout à l'heure. Vous l'avez dit également, 1, 2 et maintenant 3 doses pour Pfizer. Nos policiers sont-ils en danger? Des photos personnelles de 2 fonctionnaires de la police d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis ont été placardées dans une cité de la ville. Et puis il y a un an, le chanteur Christophe nous quittait à l'âge de 74 ans. Chère Christelle, je vous dirai les mots bleus, les
oui,
mots
bah, tout qu'on à l'heure.
Dit avec les yeux.
À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
La petite Mia, cet enfant de 8 ans enlevé de chez sa grand-mère mardi près d'Épinal dans les Vosges, n'a toujours pas été retrouvée, mais cette affaire est de plus en plus rocambolesque. Le procureur de la République d'Épinal vient de tenir une conférence de presse. Pas de traces de l'enfant ni de sa mère, mais un départ à l'étranger n'est pas exclu. Une 4e personne est actuellement en garde à vue et on commence à y voir plus clair, Dimitri Ramelot, sur le scénario de l'enlèvement.
Oui, les 4 hommes âgés de 23 à 60 ans actuellement en garde à vue ont été contactés via Internet par la mère de Mia. Et ce sont les services secrets français enquêtant sur un individu et qui ont réagi aux informations de l'alerte enlèvement qui ont mis les gendarmes sur la bonne piste. Nicolas Hayes, procureur de la République d'Épinal.
Dans le cadre de cette enquête, un des individus mis en cause utilisait un véhicule de marque Citroën type C15 dont l'immatriculation correspondait à celui vu par les témoins dans le secteur de l'enlèvement.
Et dès mercredi soir, les gendarmes de la section de recherche de Nancy et du GIGN interpellaient 2 hommes en région parisienne. 2 autres étaient également arrêtés hier. Aucun antécédent judiciaire pour les 4 suspects, mais une détermination revendiquée.
La perquisition permettait notamment d'y découvrir le script d'un discours à tenir devant la grand-mère de Mia pour se faire passer pour un éducateur. 3 des gardés à vue revendiquaient cette action qu'ils qualifiaient d'extraction et d'exfiltration.
Si les 4 hommes seront présentés cet après-midi à un juge d'instruction et poursuivis pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans, ils n'ont pour l'instant livré aucune information permettant de localiser Mia et sa mère qui, selon le procureur, pourraient avoir quitté la France.
Dimitri Ramelot à Épinal pour RTL. Alors, les 3 ravisseurs étaient connus des services de renseignement pour être des survivalistes et ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient déjà dans le viseur de la DGSI. Mais qui sont ces survivalistes? Pour comprendre, nous sommes avec Bertrand Vidal, sociologue à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pourquoi se définissent-ils ainsi? Parce qu'ils pensent survivre à un monde qui va s'effondrer?
Exactement. Le survivalisme, en fait, c'est une doctrine qui est née dans les années 60-70 aux États-Unis et qui anticipait la possibilité d'un réchauffement de la guerre froide et plus particulièrement d'une attaque en fait sur le territoire nord-américain et la possibilité donc de ce qu'on a appelé à l'époque un hiver nucléaire aussi, mmh. la fin du monde donc.
Bon, mais on n'est plus du tout dans cet esprit-là aujourd'hui. On est plutôt. Est-ce que la pandémie a réactivé le survivalisme ?
Bien sûr, le survivalisme a changé et les événements récents ont changé aussi le survivalisme. Si à l'origine, en fait, on était face à des personnes qui étaient proches de la droite, de l'ultra-droite libertarienne américaine, quand le survivalisme est arrivé en Europe, aux alentours des années 2000, plus particulièrement dans les années 2010, il s'est coloré d'autres peurs. La possibilité d'une catastrophe écologique, d'une catastrophe économique et désormais, avec la pandémie, la possibilité de virus, en fait, qui allait mettre fin à nos modèles de société.
Mais est-ce qu'ils ont encore des liens avec l'extrême droite ?
Oui, il y a en fait dans le survivalisme aujourd'hui, il y a diverses tendances. On va retrouver des personnes qui mettent en avant l'autonomie et la résilience. Être autonome et résilient, pour certains, ça va être partir dans la forêt, réapprendre certaines techniques de survie, des techniques ancestrales, savoir faire du feu, savoir bivouaquer. Et pour d'autres, beaucoup plus extrêmes, être résilient, ça va consister à apprendre des techniques de combat à l'arme à feu, des combats au couteau, manier des explosifs parfois même.
Donc il faut savoir manier les armes. On est quand même surpris d'apprendre que les trois personnes qui ont été arrêtées étaient suivies par la DGSI, c'est-à-dire par les services de renseignement. Est-ce que c'est fréquent à votre connaissance ?
Pas à ma connaissance, en tout cas pas les individus que j'ai pu rencontrer, les survivalistes que j'ai pu rencontrer étaient des individus cultivés qui avaient tous un niveau post-bac, qui étaient relativement bien intégrés à notre société, qui critiquaient notre société, son mode de fonctionnement et peut-être parfois à juste titre la course au profit, la société de consommation, l'aliénation généralisée dans laquelle nous vivons, le métro boulot dodo et la routine un peu aliénante, mais bien sûr il existe certains survivalistes qui peuvent participer à des dérives extrêmes. Il faut savoir que la pensée survivaliste est une pensée que l'on appelle dichotomique, manichéenne. D'un côté, il y a les bons, il y a les méchants. D'un côté, il y a ce qu'ils appellent les cigales, nous autres qui ne passerons pas l'hiver, et eux-mêmes, les fourmis, en fait, qui ont tout prévu.
Et à votre avis, il y a combien de personnes dans cette mouvance en France actuellement ?
Ça, j'aurais du mal à vous le dire, mais cependant, on peut estimer le succès des missions qui ont une tendance survivaliste, comme Koh-Lanta, oui. Une mission de télé-réalité, ah, oui. voire même des fictions comme The Walking Dead, etc., etc., ou tout le cinéma-fiction. Il s'agit même maintenant d'un genre à part entière dans le jeu vidéo, le survival. C'est vraiment très difficile. On peut aussi dire que depuis 3 ans, il y a le salon du survivalisme qui est organisé à Paris. Malheureusement, avec la pandémie, il n'est plus organisé. Mais c'est une tendance qui a tendance à, enfin, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser, en tout cas. Bah,
merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Bertrand Vidal. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur du livre « Survivalisme, êtes-vous prêt pour la fin du monde ?» publié aux éditions Arquet. Merci à vous. À Strasbourg, finalement, il n'y aura pas de subvention de 2,5 millions d'euros de la part de la mairie pour l'association qui construit en ce moment la mosquée. Les porteurs du projet ont finalement retiré leur demande, qui avait créé une grosse polémique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait reproché à la maire écologiste de Strasbourg de financer une ingérence étrangère, puisque l'association Miligorus est proche de l'État turc. Jeanne Barseguian, la maire de Strasbourg, vient de s'exprimer.
Cette annonce de l'association, j'en prends acte, et donc ça signifie que l'affaire est close pour cette demande de subvention. J'ai suivi les procédures habituelles. Je constate aujourd'hui qu'elles ont besoin d'être renforcées et clarifiées. Et donc, je tire quand même les leçons de cet épisode de ce point de vue. Non, ce que je regrette, c'est la tonalité de la polémique très violente, très agressive. J'ai fait l'objet de graves menaces dans les dernières semaines, mais aussi des membres de mon équipe. C'est pas digne de ce débat démocratique.
Jeanne Barseguian, qui, à cause de cette polémique, a dû être placée sous protection policière ces derniers jours. Des propos recueillis par Yannick Collant. La circulation du RER B doit reprendre progressivement dans l'après-midi. Elle avait dû être interrompue ce matin au nord de Paris à la suite du gigantesque incendie d'un entrepôt de 4000 m² à Aubervilliers, un entrepôt qui stocke des antiquités, des tissus. 200 pompiers avaient dû être mobilisés. Le panache de fumée était visible dans toute la capitale. Dans un instant, on s'interroge avec Pascal Pro sur une réouverture progressive dans un mois. RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Croyez-vous à une réouverture progressive des terrasses et des lieux culturels à partir de la mi-mai? C'est la question que l'on vous pose sur RTL.fr. C'est l'objectif volontariste affiché par Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, on est en plein dans la troisième vague, comme le reconnaissait ce matin encore le Premier ministre Jean Castex lors d'une visite au CHU de Caen.
Cette troisième vague est loin d'être terminée. Même si, sur ce qu'on appelle l'incidence, on constate en Normandie comme ailleurs un certain nombre d'évolutions favorables. Mais on sait bien qu'il y a toujours un décalage avec la situation hospitalière. Et donc, vraiment, nous devons tenir.
Nous devons tenir, dit Jean Castex au micro RTL de Jacques Serret. Soyons concrets, Sophie Jousselin. Les derniers chiffres de contamination montrent seulement un ralentissement timide.
Effectivement, la progression des nouveaux cas semble ralentir. Le taux d'incidence reste malgré tout pour l'instant très élevé, 408 au niveau national, selon les derniers chiffres de Santé publique France. Le seuil d'alerte, je vous le rappelle, est fixé à 250. En revanche, ce qui est plutôt encourageant, c'est que dans les départements et régions qui sont sous confinement depuis les 20 et 27 mars, ce taux d'incidence est en baisse. Dans les Hauts-de-France, par exemple, il est à 402 après avoir culminé à 509. Les données hospitalières montrent une tension toujours palpable. Le nombre de personnes hospitalisées est sur un plateau très élevé. Même chose pour les réanimations. La question est donc aujourd'hui de savoir si on va rester sur ce plateau ou si la décrue va enfin s'amorcer et quand. Alors ce sera peut-être dans les jours ou les semaines à venir. Ça va dépendre. Il va y avoir la fin des vacances, le retour d'une partie des enfants à l'école, la progression de la vaccination. Des facteurs qui peuvent faire évoluer dans un sens ou dans l'autre une situation extrêmement fragile.
À Sophie Jousselin, cette réouverture, ce déconfinement progressif, Pascal Praud, ce sera le grand thème des auditeurs, ont la parole à partir de 13h et vous êtes dubitatif.
J'y crois comme lorsqu'Emmanuel Macron avait promis d'augmenter massivement les capacités d'accueil à l'hôpital. J'y crois comme le 1er mars dernier, lorsqu'Emmanuel Macron toujours disait qu'il fallait tenir encore 4 à 6 semaines. Nous sommes le 15 avril et il va encore falloir tenir. J'y crois toujours et toujours le président de la République lorsqu'il s'était engagé à faire du vaccin contre la Covid-19 un bien public mondial, accessible à tous, quelle que soit l'origine ou le niveau de richesse. Ce n'est pas encore le cas. Donc j'y crois comme Saint Thomas, en fait, maintenant. Donc j'attends le 15 mai pour être en terrasse. Et ce jour-là, je vous jure, appelez-moi, je vous dirai.
Bon, donc Emmanuel Macron va-t-il tenir ses engagements? William Galibert, il faut aussi savoir lire entre les lignes.
Oui, c'est ça. Bon, je sens que Pascal est dubitatif. Je vais lui donner un conseil. C'est aussi de bien garder ses lunettes sur le bout du nez parce que il va falloir regarder les petits caractères, les mentions légales du contrat. D'abord, on nous a annoncé le 15 mai, sauf que maintenant, on nous parle plutôt de la mi-mai. Ça permet de gratter quelques jours de marge si on en a besoin. Ensuite, on nous a parlé des terrasses et des musées. Mais que dit ce matin le porte-parole du gouvernement? Il dit, je cite, « Certains lieux culturels et certaines terrasses rouvriront à la mi-mai ». Parce que Emmanuel Macron a annoncé l'idée d'ouvertures différentes en fonction des régions, avec des étapes là aussi différentes qui pourraient s'espacer de 3 semaines en 3 semaines et nous amener jusqu'au mois de juillet. Vous voyez un petit peu le cheminement. Si je devais résumer les choses, je vous dirais que dans réouverture progressive, le vrai mot qu'il faut entendre, c'est pas réouverture, c'est progressive.
Ben non, mais c'est même plus voir entre les lignes. C'est que vous nous dites clairement que voilà, on rouvrira de manière homéopathique le 15 mai quelques terrasses.
Ça sera plutôt du goutte à goutte, effectivement. Et il y a aussi une dernière chose, Pascal, c'est que les images qui vont arriver ces prochains jours de nos voisins européens, la Belgique, la Suisse, le Danemark, qui vont rouvrir assez massivement, vont coller une pression maximale sur le gouvernement.
C'est clair, le débat est ouvert en tout cas.
Oui, il n'y a que ça qui est ouvert, manifestement.
Allez, on en reparle à partir de 13h, merci. Du côté des vaccinations, on va franchir aujourd'hui la barre des 12 millions de personnes qui ont reçu une première dose. 4,2 millions ont eu les deux doses, mais combien va-t-il en falloir exactement? Le PDG du laboratoire Pfizer affirme qu'il faudra probablement une troisième dose d'ici 6 mois à 1 an et sans doute ensuite une injection chaque année. Pour y voir plus clair, nous sommes avec le docteur Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Une troisième dose, ça vous paraît nécessaire à vous?
Écoutez, vous savez qu'on a une grande inconnue concernant les vaccins, c'est la durée de la protection, c'est la durée de l'immunité. Alors on sait que 6 mois, c'est quasiment acquis, d'après les études. Quand on regarde les gens qui ont eu déjà une infection, l'infection naturelle, on sait qu'ils ont des anticorps, ça peut durer 8 mois, peut-être un petit peu plus, mais vous voyez, on est encore dans une incertitude complète. Il faut savoir que même si vous avez une baisse des anticorps, il y a toujours la mémoire cellulaire, mais qui est très difficile, la mémoire immunitaire, qui est l'immunité cellulaire, qui est très difficile à appréhender. Donc, ça paraît tout à fait plausible d'avoir effectivement un rappel en fonction, bien sûr, de la circulation du virus. Mais quel rappel ? Ça sera en fonction, bien sûr, des variants. Alors, l'avantage des vaccins ARN, c'est qu'on peut très, très facilement, si vous voulez, adapter ce vaccin en fonction des variants qui peuvent être dominants.
Oui, ça veut dire que... Pardon, excusez-moi, cette troisième dose, ce serait une nouvelle version du vaccin adapté aux variants, c'est ça ?
Cela dépend bien sûr. D'abord, ça peut dépendre de certains territoires. Ça dépendra à un moment précis quel est le variant qui domine. Aujourd'hui, c'est le variant britannique. En tous les cas, si je prends le cas de la France, c'est le variant britannique. Et on sait que tous les vaccins disponibles aujourd'hui sont actifs sur le variant britannique.
Oui.
Maintenant, si d'ici le mois d'octobre, s'il y a encore une circulation du virus, qu'on a de nouveaux variants, peut-être le brésilien, peut-être le sud-africain, peut-être un autre qu'on ne connaît pas à ce jour, il faudra effectivement l'adapter. Donc, vous voyez, c'est vrai que c'est une incertitude. Quoi qu'il en soit, il est fort possible que nous soyons partis sur une sorte de modèle grippal s'il y a encore une circulation du virus et qu'on ait besoin régulièrement d'avoir des rappels. Mmh. Donc ce qu'a dit le président de Pfizer paraît effectivement tout à fait plausible.
Mmh. On a l'impression quand même que le virus a toujours une longueur d'avance. Est-ce que les laboratoires, je crois que c'est clair, on est toujours en train de courir derrière lui.
Oui.
Est-ce que les laboratoires auront le temps de fabriquer à chaque fois une nouvelle version adaptée aux nouveaux variants qu'on ne connaît pas encore, comme vous le disiez à l'instant?
Non, si vous voulez, il y a le mettre au point, ça semble pas être trop trop difficile avec les vaccins ARN.
Ouais.
Par contre, est-ce que ça sera un vaccin unique comme ils l'ont fait aujourd'hui ou en fonction de territoire géographique, et le problème de la production risque de se poser. C'est-à-dire, la mise au point, elle est relativement facile en fonction des variants, de différents variants. Alors, on peut aussi rêver et en se disant qu'on peut faire un vaccin avec plusieurs variants. Vous voyez, un vaccin ARN avec, qu'on pourrait adapter. Mais aujourd'hui, il est trop tôt. Il y aura certainement peut-être besoin d'une troisième dose. Avec quel type de variant ou exactement le même vaccin, on le saura, si vous voulez, en avançant. Et une fois de plus, avec ce virus, on court derrière, mais on apprend en marchant.
Eh ben, merci beaucoup pour cet éclairage, en tout cas, docteur Sebag. Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, au revoir.
Au revoir. Il y a urgence à vacciner de toute façon pour désengorger les hôpitaux. Ce matin, RTL vous a fait vivre en immersion le quotidien des soignants de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, où 28% des lits sont occupés par des patients Covid. Et au bout d'un an de pandémie, les médecins, infirmiers, réanimateurs ont appris à tenir, Odile Pouget.
Oui, c'est le cas de Jean-Marc, infirmier de nuit depuis 25 ans dans le service de médecine interne, transformé en unité 100% Covid dès le début de l'épidémie.
C'était une sorte d'inconnu, et cet inconnu nous a un peu grisé au bout du compte. Ça nous a donné une sorte de mission, et du coup je crois que c'est ça qui fait que depuis plus d'un an, on est toujours à fond et tout le monde joue encore le jeu actuellement.
Si les soignants peuvent encore tenir, c'est aussi grâce au renfort des intérimaires, des collègues venus d'autres services, mais aussi de régions moins impactées. Laure Dossy est aide-soignante à l'hôpital Marin d'Andaille. Elle n'avait jamais travaillé en réanimation. C'est pourtant son quotidien depuis 15 jours.
Il a fallu s'adapter, suivre les équipes et puis comprendre un peu la prise en charge complexe des patients atteints du Covid. Puis maintenant, c'est vrai qu'on prend quand même du plaisir à être là au sein des équipes et on se sent utile.
Certains soignants ont vu leur vie quotidienne chamboulée. Mélissa Saint-Éloi est sage-femme. Faire accoucher de jeunes mamans malades l'a beaucoup marqué.
On est obligé de mettre une barrière pour pouvoir se protéger. C'est quand même très difficile parce qu'il y a forcément le côté humain, mais on est obligé de se protéger.
D'autant qu'il va falloir encore tenir. Dans cet hôpital, le nombre d'admissions de patients Covid ne faiblit pas encore.
Reportage Odile Pouget.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il sera 13h dans 8 minutes. L'Ukraine cherche à tout prix des soutiens de poids face à la Russie. Le président ukrainien va déjeuner dans quelques minutes à l'Elysée avec Emmanuel Macron avant un entretien en visioconférence avec Angela Merkel. Ça fait plusieurs semaines que la Russie cherche la faute et a amassé des dizaines de milliers de soldats aux frontières avec l'Ukraine. Et le président Zelensky est extrêmement fragilisé, Brice Dugénie.
Absolument. Et avec lui, c'est toute l'Ukraine qui se cherche des alliés face aux géants russes. russe qui se presse à sa frontière. La Russie prétexte une menace de l'OTAN pour justifier ses mouvements de troupes très importants. Au bénéfice d'un cessez-le-feu, l'année 2020 avait été plutôt calme sur le front de l'Est de l'Ukraine, mais le début de l'année a été beaucoup plus tendu, les combats plus intenses. Alors cette visite était prévue à l'agenda des deux présidents, mais elle tombe à pic. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron se connecteront également avec Berlin, où la chancelière Merkel participera en visio à cette entrevue pour tenter de conserver le cessez-le-feu face à ces nouvelles tensions inquiétantes. Selon l'Elysée, la souveraineté de l'Ukraine est menacée et la France doit apporter tout son soutien à Kiev. Hier, c'est Joe Biden, le président américain, qui a demandé à Vladimir Poutine de s'abstenir de toute action militaire contre l'Ukraine, parce qu'on se souvient évidemment qu'en 2014, Moscou avait annexé militairement et illégalement la Crimée ainsi qu'une partie de l'Est du pays. C'est exactement ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut éviter aujourd'hui.
Décryptage Brice Dugénie.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, retrouver des collégiens passionnés de volcans. Pour mieux les étudier, il demande un petit coup de main à l'astronaute français Thomas Pesquet qui part dans la Station Spatiale Internationale jeudi prochain, Gauthier Delombugard.
Il y a quelques semaines, en cours de physique-chimie, les élèves de 4e s'intéressent aux volcans qui dominent leur région. Ils recherchent des photos de la chaîne des puits prises depuis l'espace. Éléonore et ses camarades feuillettent alors le livre de Thomas Pesquet, le dernier astronaute français à être parti en mission.
C'est vrai qu'on s'est aperçu dans le livre de Thomas Pesquet qu'il n'y avait pas de photos de la chaîne des puits. On a la chance d'habiter à côté des volcans et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne voit pas à quoi ça ressemble depuis l'espace. Donc on s'est dit que ça pourrait être une super idée de faire une vidéo pour pouvoir l'envoyer à Thomas Pesquet et lui demander s'il pourrait prendre la chaîne des puits en photo depuis l'espace.
Les collégiens se mettent en scène dans une vidéo diffusée sur YouTube.
Ce site exceptionnel a été inscrit en 2018 au patrimoine mondial de l'UNESCO.
À l'origine de ce projet, Fabrice Belot, professeur de physique chimie au collège de Chamalières.
Sur un plan pédagogique, c'est vrai que c'est en lien avec le programme. C'est un projet qui est conjoint avec la SVT pour parler justement du volcanisme. Nous, sur la physique, on va reprendre des travaux de Blaise Pascal concernant tout ce qui est pression atmosphérique.
Thomas, est-ce que tu peux prendre nos volcans en photo, s'il te plaît, depuis là-haut ?
Les collégiens espèrent que cette vidéo arrive jusqu'à Thomas Pesquet avant son départ pour la Station Spatiale Internationale jeudi prochain.
À toi de jouer, Thomas.
C'est demandé si gentiment. Enfin, un hommage à Christophe, le chanteur, qui fait partie des 100 000 victimes du Covid. Il nous a laissé il y a un an pile avec ses mots bleus. Vous en parlez tout à l'heure.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler, ce semble ridicule, je m'élance.
Le dandy maudit, oui, il nous manque quand même.
Ah oui, oui, mais la force d'une grande chanson, c'est qu'on peut l'écouter, la réécouter. Paradis perdu, c'est une chanson magnifique. Ça me redonne un peu le moral, parce que votre journal, quand même, vous ne m'avez pas donné un moral fou.
Ah bon, pourquoi ? Vous avez découvert les survivalistes.
Alors, vos amis les survivalistes m'ont effectivement un peu surpris.
Le vaccin, il y aura peut-être une troisième dose, mais il va falloir courir derrière les variants.
J'ai appris également qu'on ne rouvrirait pas le 15 mai, si j'ai bien compris. Donc, je suis en pleine forme là pour amorcer les auditeurs. Et je vous en remercie grandement. Heureusement, on va pouvoir rire et remercie nos amis Écologie Les Verts qui nous offrent régulièrement une petite tribune pour s'amuser, puisqu'on rappelle qu'un élu vert estime qu'un club de bateaux à voile.
Mais ça s'appelle le Yacht Club.
Le yacht, c'est le mot yacht, alors en plus yacht.
Eh ben c'est le yacht.
Yacht, on a l'impression que c'est des bourgeois très riches, donc il faut les combattre. Yacht, ça coûte 6 euros, disait Cyprien Sini ce matin. 6 euros l'adhésion par an. Et vous savez de combien elle est la subvention pour ce club?
Non.
1000 euros. 1000 euros.
Il y a des sujets comme ça qui fâchent. Allez, la météo, Valérie Quintin. Toujours trop fraîche, franchement.
Oui, franchement, 9 degrés maximum à Metz cet après-midi, 11 à Reims et Orléans, 12 à Paris et Lyon, 14 à Nantes, 15 à Montauban et Toulon, 17 à Ajaccio. On a beau dire que c'est plus doux. Non, à Paris, on a 12 degrés cet après-midi. On devrait avoir 15 si on veut être dans les normales de saison. Et oui, on va avoir un petit peu moins de gelée encore, qu'on en aura quand même dans le courant du week-end. Cet après-midi, on a des gros orages quand même qui vont se déclencher dans le sud-est. Ailleurs, on s'en sort bien, sauf que cet ensoleillement réchauffe pas vraiment parce qu'on a un petit flux de nord-nord-est et on a d'ailleurs dans le nord-est des nuages qui sont présents en Lorraine, en Champagne-Ardenne et en Alsace et qui vont peu à peu gagner une grande partie de la moitié nord cet après-midi.
Et ce week-end, toujours pas de douceur?
Non, toujours pas, on a beau dire. Moins 3 degrés à Aurillac demain matin, 0
ça
à Rennes, à Besançon, à Limoges. Dans l'après-midi, on va avoir des températures qui restent fraîches. 12 degrés seulement à Abbeville, à Paris, à Nancy, 13 à Brest, 14 à Tours demain, 15 à Grenoble et La Rochelle, 16 à Perpignan, de la l'instabilité tout le week-end dans le sud-est. De la neige en montagne à assez basse altitude, forcément, vu l'état des températures. Ailleurs, on devrait quand même assez bien s'en sortir. Je ne dis pas qu'il fera grand beau, mais on devrait avoir des passages nuageux peut-être un petit peu denses et des éclaircies un peu plus timides. Elles seront plus généreuses vers les côtes de la Manche ou encore les côtes atlantiques. Et figurez-vous que ça va se tenir comme ça pratiquement toute la semaine prochaine. Oui, certes, les températures vont monter un tout petit peu. On ne va plus avoir de gelée, on va avoir deux. Fantastique. On va avoir des températures.
J'aime votre ironie.
Qui pourraient remonter un tout petit peu plus nettement à partir de mercredi, jeudi.
Il n'y aura pas de dégâts du gel pour les agriculteurs, c'est déjà essentiel.
C'est déjà ça.
Merci Valérie.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et cette polémique, évidemment, qui vous fait réagir le club de bateaux à voile qui polluerait, selon un élu Europe Écologie Les Verts. C'est Marc qui est avec nous. Bonjour Marc, ça vous fait réagir. Oui.
Bonjour Pascal. Ben, les bras m'en sont tombés, mon cher Pascal. Évidemment que je suis... Je peux même pas dire si je suis contre ou si je suis pour. Je vous dis, les bras m'en sont tombés.
Eh ben, on va en parler tout à l'heure, les bras pour faire de l'aviron, bien sûr, dans le yacht club. Christelle, le rappel des titres.
Cette troisième vague est loin d'être terminée, c'est ce qu'a reconnu ce matin Jean Castex. Les chiffres de l'épidémie montrent une stagnation, mais on n'est pas encore au pic sanitaire. Emmanuel Macron prévoit de rouvrir peu à peu les terrasses et certains lieux de culture à partir de la mi-mai. Près de 12 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin, 4,2 millions les deux doses. Après les cafouillages avec AstraZeneca, il est probable que l'Europe ne renouvelle pas ses contrats avec ce groupe pharmaceutique. Déclaration ce matin de la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Toujours pas de traces de la petite Mia enlevée il y a 3 jours, ni de sa mère. Le procureur de la République d'Épinal n'exclut pas un départ à l'étranger. 4 hommes sont désormais en garde à vue, dont les 3 ravisseurs présumés qui seraient des survivalistes. Aux États-Unis, au moins 8 personnes ont été tuées dans une fusillade à Indianapolis, dans le centre du pays. Les victimes ont été retrouvées dans un centre du transporteur de colis FedEx près de l'aéroport. Le tireur présumé s'est donné la mort.
Les auditeurs ont la parole